Le mot communion apparaît 31 fois dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium et 101 fois dans l'ensemble des documents du Concile Vatican II. Un terme qui, lors du synode extraordinaire de 1985, a donné naissance à l'expression « ecclésiologie de communion ». Le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, était en 1985 le secrétaire spécial de ce synode. Il revient pour nous sur cette expression, sur son sens et ses origines, en commençant par définir la communion et la manière dont elle est vécue dans l'Église.
Le terme communion est un terme très ancien de la théologie patristique, koinonia. Communion ne veut pas dire communauté dans un sens horizontal, mais participation à les choses saintes, communio sanctorum, des choses saintes. Ça veut dire surtout participation à l'Eucharistie, les sacrements, la parole de Dieu et à l'Esprit Saint. Parce que par cette commune participation, nous formons une communion entre nous. On a retrouvé cette idée patristique et on l'a renouvelée dans un Lumen Gentium. C'était fondé surtout par le père Lubac, un fameux théologien français.
Dans la théologie de l'Église d'avant Vatican II, la hiérarchie avait une place particulière. Avec le Concile, c'est un changement radical qui a lieu, car c'est la vision d'une Église mystère qui est mise en avant. La hiérarchie que la Constitution Lumen Gentium aborde est maintenant mise au service de cette Église communion que le synode de 1985 a étudiée.
C'est une définition de l'Église, une définition qui est assez fortement dans les pères, surtout les pères grecs, et c'est très important de le retrouver, cette ecclésiologie patristique, parce que c'est un lien commun avec les orthodoxes surtout, mais aussi Luther. Le jeune Luther a écrit un petit article sur cette ecclésiologie patristique. De communion veut dire l'Église n'est pas une structure juridique seulement, n'est pas une uniformité, mais une communion des communions. Église universelle et communion, mais est une communion avec les communions particulières des Églises particulières.
Cette vision de l'Église et de la communion au service des Églises incite donc à se poser la question des relations entre ce que l'on nomme l'Église universelle et les églises locales.
Dans chaque église particulière, l'église comme telle est présente. Mais parce que l'une église est présente en tous, ils doivent être en communion entre elles-mêmes. Il y a une réciprocité et une intimité mutuelle entre Église universelle et Église particulière. L'Église universelle n'est pas une abstraction au-dessus des Églises particulières, mais elle existe dans et des Églises particulières.
Pour le cardinal Kasper, il y a ainsi une simultanéité de l'Église universelle avec les Églises particulières. Cette communion profonde qui unit l'Église ne peut trouver sa source que dans la Trinité, qui est la communion de trois personnes dans la même nature divine. Et c'est l'Esprit Saint qui joue ici un rôle particulier.
Je veux d'abord dire que l'Esprit Saint est communion en personne déjà dans la Sainte Trinité, et l'Esprit Saint aussi est l'opérateur de cette communion parce que nous sommes en communion avec Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Il est le médiateur de cette communion et on peut vivre seulement dans l'Esprit Saint, cela veut dire dans une spiritualité qui est imprégnée de l'Esprit Saint. Et pour cela, l'Esprit Saint est la réalité fondamentale dans cette communion. Il est aussi très important dans les rapports œcuméniques parce que les orthodoxes, souvent, nous critiquent que nous, latins, avions oublié l'Esprit Saint, et pour cela, il est très très important aussi dans les textes du Vatican II qu'on donne beaucoup de place et importance à l'œuvre de l'Esprit, parce que la grâce divine, c'est l'Esprit Saint en personne. La grâce est une personne, c'est lui qui est le lien avec Jésus-Christ.
Le cardinal Kasper est en charge du dialogue œcuménique et de ce fait, il tient à montrer que la communion n'est pas une réalité fermée, mais qu'au contraire, elle est ouverte et peut se vivre à des niveaux différents pour créer un vrai réseau de croyants.
Ce terme est très important dans l'écuménisme parce que dans l'Église catholique, nous sommes communion parfaite, complète, avec les autres églises ou communautés ecclésiales. Nous avons une communion imparfaite, une communion pas complète, mais nous avons déjà une forme de communion et il y a un lien très profond et très étroit avec eux. Nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons et nous devons aussi témoigner ensemble dans cette société plus ou moins sécularisée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, c'est un réseau toujours plus étroit entre nous et les autres églises et le travail écuménique est pour faire toujours plus étroit ce réseau qui existe déjà. Et je pense que c'est une chose joyeuse de voir et de faire l'expérience de cette croissance dans la communion ecclésiale.
La communion a donc été utilisée depuis plus de 40 ans pour décrire l'Église. Une définition quasi-exclusive qui aujourd'hui est complétée par d'autres aspects de l'Église. Sous l'impulsion de la communion, ceux-ci se sont progressivement fait jour. C'est donc vers une définition plus élaborée de l'Église que la théologie avance, tout en reconnaissant un principe unificateur, la communion.
La conception de l'Église communion, c'est une synthèse de toute la réalité ecclésiale et aussi la communion entre les fidèles, entre les paroisses et les églises particulières et avec les églises non catholiques, communautaires, appartiennent à cette réalité globalisante de l'Église communion.